On vous souhaite la bienvenue et ceux qui se sont joints à nous, on est bien heureux que vous vous joigniez à nous pour l'étude qu'on est en train de faire sur l'Épître aux Hébreux. Ça fait que je vous mets en sourdine, puis on va commencer notre étude. Attendez un petit peu. OK. Donc, on vous souhaite la bienvenue à tous. Ce soir, on continue notre étude qu'on a commencée la semaine passée sur l'Épître aux Hébreux. On avait dit que l'Épître aux Hébreux, ben, c'est une épître qui exalte le Seigneur Jésus, qui démontre sa supériorité sur tous les prophètes, sur Moïse, Josué, Aaron. Il excelle parce que tous ces gens-là étaient ou ces personnages-là étaient des types qui nous parlent du Seigneur Jésus. Mais lui, c'est la réalité. C'est pas juste l'ombre des choses à venir, mais c'est la réalité. Puis l'épître, on avait dit qu'elle a été écrite pour des croyants, des Hébreux ou des Juifs qui avaient cru au Seigneur Jésus. Puis on voit, juste regarder, je lisais dans mon étude, dans ma lecture personnelle, dans Actes au chapitre 6, puis on voit qu'il y avait beaucoup qui ont obéi à la foi. Dans Actes au chapitre 6, il dit au verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une grande foule de sacrificateurs qui obéissaient à la foi, puis on sait qu'il y a un coup à abandonner la religion, parce que nous, ce n'est pas la religion juive qu'on a abandonnée, mais pour certains, on a abandonné la religion dans laquelle on avait grandi. Puis il y a comme un prix à payer quand on abandonne. Puis ces gens-là, ils étaient en train de retourner en arrière, de retourner à ces choses-là qui étaient vraiment seulement l'ombre des choses à venir. Mais on avait dit que celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas c'est qui. Il y a des gens qui pensent que ça ressemble à Paul, mais on n'est pas sûr. Mais lui, il a écrit ces choses pour démontrer, puis exhorter ces gens-là à ne pas retourner en arrière, pas retourner aux choses qui étaient de la religion judaïque, parce que la réalité en Christ était supérieure, était beaucoup plus grande à ces choses-là. Puis un des mots qu'on voit, c'est qu'il traduit plus excellent, meilleur, plus grand, c'est les mots qu'on retrouve à travers l'Épître. Ça fait qu'on va lire pour commencer ce soir, on va regarder les versets 1 à 3 du chapitre 1. Hébreux 1 au verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. On va demander son aide pour notre étude. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut passer ensemble dans ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous enseigne. Puis aide-nous, notre Dieu, à voir de plus en plus clair dans ta parole et de pouvoir découvrir la grandeur de ton Fils bien-aimé. On sait, Seigneur, que toi, tu connais ton Fils parfaitement et nous, on peut le connaître parce que tu nous le révèles. On t'en rend grâce, Seigneur, parce que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Donc, Seigneur, ce soir, on te demande ton aide. Merci pour ceux qui se sont ajoutés aussi. Merci pour tous ceux qui, ce rendez-vous qu'on a chaque semaine, c'est toujours un grand plaisir de se rencontrer autour de ta parole. On te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, OK, on est maintenant dans ici, on voit que dans cette partie-là d'Hébreux, le chapitre 1, verset 1 à 3, mais il nous parle du Seigneur Jésus comme un plus grand prophète. Un plus grand prophète. Un prophète, c'est celui qui parle aux hommes de la part de Dieu. Donc, les prophètes avaient cette tâche-là de s'adresser au peuple, mais de la part de Dieu. C'est Dieu qui s'adressait à son peuple à travers des hommes qui étaient des prophètes. L'Esprit de Dieu leur révélait des choses par rapport à Dieu, pour qu'on puisse connaître Dieu. C'est la révélation de Dieu. Donc, un prophète, c'est celui qui parle aux hommes de la part de Dieu. Mais leur message était aussi, quand ils parlaient, ils disaient, Ainsi parle le Seigneur. Donc, quand les prophètes parlaient, ils parlaient au nom du Seigneur, ils s'adressaient aux hommes, puis ils disaient, Ainsi parle, puis c'était l'autorité du Seigneur. On sait que avant qu'on ait l'Écriture, il y avait ces gens-là qui avaient cette fonction-là de prophète. Mais le Seigneur Jésus, lui, est venu à la fin, puis lui, il est le plus grand prophète. Dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 21, vous n'avez pas besoin de tourner, je vais vous lire, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est pour ça que le peuple, le prophète s'adressait au peuple de la part de Dieu, puis il donnait le message. Dieu leur transmettait par son esprit, il leur transmettait un message qui était approprié pour sa révélation envers les hommes, pour qu'on puisse connaître. Puis c'est ainsi que la parole de Dieu nous est parvenue. Donc ces prophètes-là qui sont parlés ici, comme il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, bien, ces prophètes-là, ils nous ont donné l'Ancien Testament avec toute la révélation que Dieu voulait nous faire, nous transmettre, il voulait nous faire connaître. Donc, on a vu à travers ces prophètes-là, on a vu sa puissance, la puissance de Dieu, parce que c'est sûr, quand on lit par rapport à la création, la puissance de Dieu, et même on voit avec le peuple d'Israël combien Dieu a agi avec puissance pour les délivrer dans des situations, puis faire des choses extraordinaires. Donc, on a vu sa puissance, on a vu aussi sa sagesse. Dans l'Ancien Testament, on voit la sagesse de Dieu, on voit son amour, on voit sa justice. On voit sa sainteté. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup sa sainteté à travers tout le système lévitique où il fallait toujours avoir des sacrifices pour être purifié, le sang des animaux qui couvraient les péchés pour un temps. Donc, ça démontrait que pour se présenter devant lui, parce que Dieu avait choisi d'habiter parmi son peuple dans une tente qui était avec eux, ensuite dans le tabernacle ou dans le temple, c'est-à-dire. Et la tente, c'était le tabernacle. Puis il y avait tout le système de rituels avec les ablutions, puis la façon qu'on devait, seulement le souverain sacrificateur pouvait s'approcher de Dieu dans le lieu très saint, une fois par année, avec le sang d'une victime qui avait été immolée. Donc quand on pense à ces prophètes-là de l'Ancien Testament, ces gens-là qui ont parlé de la part de Dieu, qui nous dit ici, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu n'est pas limité dans la façon qu'il fonctionne. Mais ces prophètes-là, on voit que qui étaient ces prophètes-là? Bien, premièrement, je pense qu'on peut penser à Moïse. Moïse est un grand prophète. On voit dans chapitre 7 des Actes, au verset 37, il dit, C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc Moïse se reconnaissait qu'il avait la fonction de prophète. Donc Dieu se révélait à travers Moïse, puis Moïse parlait au peuple. C'est certain quand on pense au Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. C'est le début de la révélation de Dieu. C'est certain que ces choses-là sont arrivées avant Moïse, mais c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, Moïse, il les avait avertis que Dieu susciterait d'entre vos frères, puis on sait que le Seigneur Jésus est né sous la loi, il est né dans le peuple d'Israël en tant qu'homme. Et puis Moïse, il disait que c'était un prophète comme lui qui viendrait pour parler au peuple, pour nous faire connaître Dieu. Donc, on sait que le Pentateuque, c'est le fondement de la révélation de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on regarde comme la Genèse, toute la Bible est en embryon dans la Genèse. Toute la révélation de Dieu est en embryon dans la Genèse. Puis, à travers toutes les Écritures, elle s'explique. Les choses, les thèmes surgissent dans la Genèse, s'expliquent à travers toute la parole de Dieu, puis se terminent dans l'Apocalypse. Donc, on voit les mêmes choses qui sont dans la Genèse, ils sont accomplis complètement dans l'Apocalypse. Mais donc Moïse avait une grande place parce que même le Seigneur, quand il est question du Seigneur Jésus qui s'est joint aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui leur a expliqué les Écritures, il est dit dans Luc 24, au verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Donc on voit que Moïse avait une place quand même assez grande en tant que prophète, comme dans le fondement de la révélation de Dieu. Puis le Seigneur Jésus, en parlant de lui-même dans les Écritures, il nous dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est comme on dit, la Bible est christocentrique. C'est-à-dire que toute la Bible est centrée sur le Seigneur Jésus, puis nous présente le Seigneur Jésus. J'étais vraiment étonné d'entendre quelqu'un dire que c'était faux de dire que les Écritures sont christocentriques. On fait pas erreur quand on cherche dans chaque page, on peut y trouver le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est Dieu, le Dieu véritable. Puis de connaître le Seigneur Jésus, ben, c'est de connaître Dieu. On va le voir en avançant dans notre étude, en pensant que lui est le plus grand prophète. Donc, après ça, après le Pentateuque qui nous vient de Moïse, on a les livres, le livre de Josué jusqu'à Deux Rois. Les livres de Josué jusqu'à Deux Rois, ils furent écrits par ceux qu'on appelle les anciens prophètes. Donc, ils nous ont donné l'histoire, ils nous ont donné l'histoire du peuple juif, ils nous ont donné ces choses-là. Dieu s'est révélé à travers eux autres, les anciens prophètes. Mais quand on arrive à Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, eux sont appelés les grands prophètes. Puis ensuite de ça, de Osée à Malachie, ils sont appelés les petits prophètes. Les petits prophètes, on a regardé dernièrement Zacharie. Mais quelqu'un avait dit une fois, il dit, j'espère que quand vous allez arriver au ciel, puis que vous allez rencontrer les petits prophètes, vous allez les connaître. Parce que souvent, c'est des prophètes qui sont ignorés. Parce qu'ils ont des. C'est pas parce qu'ils étaient petits de taille, mais ils étaient petits dans leur message. Leur message est petit. Il n'est pas aussi grand que les autres, mais ils ont aussi un message très important, les petits prophètes. C'est bon de passer du temps, d'apprendre à connaître ces petits prophètes aussi, là. Mais on voit aussi que David, le roi David, a écrit presque la moitié des psaumes. Donc, il a écrit beaucoup de psaumes. Puis, il était roi. On sait que David était un roi, le roi d'Israël, puis un grand roi en Israël, parce que quand on pense au roi, on se réfère souvent à David. Puis, le roi qui vient à la fin, le plus grand roi, c'est le fils de David, c'est le Seigneur Jésus aussi qui va prendre son trône. On a parlé de ça aussi dans Zacharie. Mais David était appelé un prophète aussi. Dans Actes 2, 30, quand il a prophétisé concernant la résurrection du Seigneur Jésus, il dit ici, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Parce que David, quand il écrit dans ce psaume-là, on sait que David est mort, puis son sépulcre est encore avec nous aujourd'hui. Quand on va à Jérusalem, on peut voir le sépulcre de David, mais il avait prévu et annoncé d'avance la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était important pour lui, parce que dans la résurrection du Seigneur Jésus, ben, c'est là qu'est notre espérance, parce que sa résurrection nous garantit aussi la résurrection. Donc, David aussi, même s'il était roi, il est appelé un prophète parce qu'il a prophétisé des choses dans les psaumes, puis on voit que c'est lui qui a écrit presque la moitié des psaumes. Mais quand il dit ici, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, on a tous ces prophètes-là qui ont parlé, et Dieu dans ces derniers temps nous a parlé, ils ont parlé à nos pères par les prophètes. Donc, quand il dit ici, il a parlé à nos pères, ben ça, c'est sûr que c'était les Juifs, là. Quand il écrivait, puis on sait qu'il écrit aux Juifs, mais comme on a dit la dernière fois, c'est pas parce qu'il écrit aux Juifs que nous, on ne peut pas profiter de ces choses-là. Il y a des choses quand même qui s'appliquent à nous. Donc, il a parlé à nos pères, c'était les Juifs. Dans Romains 3, 2, il parle du privilège du peuple juif. Dans Romains 3, 2, il dit, il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles leur ont été confiés. Donc, les oracles de Dieu ont été confiés au peuple juif. C'est de là qu'on a eu le Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous viennent du peuple juif. Dieu a choisi un peuple parmi les nations pour pouvoir se révéler aux nations. Il faut faire attention. Des fois, il y a des gens qui disent, oui, c'est sûr que Israël, c'est le peuple élu de Dieu, c'est un peuple choisi de Dieu, mais il était choisi dans le but de se faire connaître à travers eux, puis de nous emmener le Messie à travers eux pour que qu'il devienne notre sauveur aussi, puis on puisse connaître Dieu à travers les écrits qui nous sont parvenus à travers le peuple juif. Donc, il dit, il a parlé à nos pères, mais c'est tout un privilège qu'ils ont eu d'avoir la parole de Dieu. Puis, mais il était supposé de nous la transmettre. Donc, le peuple juif avait le mandat de transmettre aux nations la révélation de Dieu. Puis, ils vont le faire éventuellement dans le millénaire, mais ils ont manqué à la tâche. Ils l'ont comme gardé pour eux, puis ils ont vu les nations comme des. Ils ne devaient pas se mêler aux nations, ils devaient rester le peuple de Dieu. Mais il devait aller proclamer aux nations. On sait que Salomon, dans sa gloire a resplendi jusqu'en Éthiopie, le règne de Séba, qui est venu pour voir la sagesse de Salomon. C'est ça qu'il devait être. Il devait de Jérusalem resplendir sur toutes les nations. Mais ils l'ont gardé pour eux. Ils ont gardé ces choses-là pour eux. Ils se sont séparés. Puis ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, de transmettre. Vous savez, on a une analogie avec la mer de Galilée, puis la mer morte. La mer de Galilée reçoit les eaux qui viennent de la montagne de l'Hermon, qui descendent, puis qui viennent dans la mer de Galilée. Mais la mer de Galilée ne les garde pas. Elle ne garde pas ces eaux-là parce qu'ils continuent à couler dans le Jourdain, puis s'en vont vers la mer morte. Mais la mer de Galilée reçoit l'eau. La bénédiction, c'est comme dans le psaume 30, 133, il nous parle de la bénédiction qui vient de l'Hermon. C'est là que la source des eaux descend vers la mer de Galilée, puis ensuite coule à travers le Jourdain jusqu'à la mer morte. La mer de Galilée, elle reçoit, puis elle donne. Puis la mer de Galilée, c'est plein de vie. Il y a des poissons, il y a de la vie sur la mer de Galilée, les pêcheurs et tout ça. Mais la mer morte reçoit, mais ne donne pas. Puis c'est pour ça que c'est la mort. Il n'y a pas de poisson, c'est une mer salée. On appelle la mer morte parce qu'elle reçoit puis ne donne pas. L'eau ne peut plus couler de la mer morte parce que c'est un endroit très bas sur la terre. Puis l'eau, elle doit s'évaporer. C'est pour ça qu'on a bien des minéraux dans la mer morte. Mais c'est pour ça que si on reçoit la bénédiction puis on ne la redonne pas, ben on devient stagnant. Tandis que si on reçoit la vérité puis qu'on la transmet à d'autres, c'est ce qu'on doit faire, nous aussi, comme le peuple d'Israël devait transmettre la connaissance de Dieu, ben nous aussi, on doit transmettre ce qu'on a connu de Dieu, le transmettre aux autres pour qu'ils soient sauvés, le transmettre aussi à nos frères et sœurs pour qu'on puisse grandir ensemble. On grandit ensemble en partageant les choses qu'on apprend de la parole de Dieu. Donc, c'est ça, c'est important de redonner. Puis quand on redonne, c'est là qu'est la vie. Mais maintenant, à nous, le Père a parlé par le Fils. Il nous a parlé par le Fils, comme il dit, dans les derniers temps. Dieu, dans ses derniers temps. Donc, ici, quand on parle des derniers temps, ben, c'est après le Seigneur Jésus, puis dans l'attente de son retour, quand il va revenir avec nous. Donc, dans les derniers temps, depuis que l'œuvre de rédemption s'est accomplie par le Fils. Voyez-vous, à la fin du chapitre du verset 3, là, il dit, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. On vit dans le temps où c'est au passé qu'il a fait la purification des péchés. Puis maintenant, le Seigneur Jésus est dans la gloire. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, ça, c'est les derniers temps ici quand la rédemption est accomplie. Le Seigneur Jésus est venu nous parler, mais il est venu aussi nous faire connaître la rédemption que lui-même a accomplie. Et puis ensuite de ça, il est remonté dans la gloire. Le Seigneur Jésus, il s'est fait homme. Il est né comme un enfant. Il a vécu parmi nous dans une chair semblable à la nôtre, à l'exception du péché. Le Seigneur Jésus était impeccable, mais Il a accompli la rédemption. Il est allé jusqu'à la croix dans l'obéissance à son Père. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, puis une mort terrible, une mort dans la honte parce qu'on lui avait enlevé ses vêtements, on l'a crucifié comme un malfaiteur. Après l'avoir fouetté, après l'avoir maltraité, on l'a mis en spectacle à tous les gens qui passaient là. Puis le Seigneur Jésus a été comme une brebis muette devant ceux qui le tondent, il n'a point ouvert la bouche. Parce qu'il voulait faire la purification des péchés. La seule façon qu'il pouvait faire la purification des péchés, ben c'était en s'offrant lui-même comme l'agneau parfait. Dans l'Ancien Testament, il y avait des agneaux qui étaient immolés constamment. Mais quand Jean le Baptiste a vu voir le Seigneur Jésus venir à lui, il a dit, voici l'agneau. Il n'a pas dit, voici un agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Tous les agneaux auparavant étaient seulement des types du vrai agneau de Dieu, celui qui était vraiment impeccable, sans défaut, ni tache, ni rien de souillé. Seigneur Jésus, parfait, impeccable, il est mort pour nous, à notre place, pas pour ses péchés. Il n'avait pas de péché, comme le brigand sur la croix a pu dire, nous, c'est ce que nous avons mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaissait que le Seigneur Jésus n'était pas sur la croix à subir un châtiment que lui méritait. Mais c'était vraiment le châtiment que ces brigands-là, puis nous aussi, un châtiment que nous, on méritait. Le Seigneur Jésus, il a subi pour nous. Puis, il est maintenant ressuscité. Et il est monté dans la gloire. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Ça, c'est vraiment merveilleux parce que ça nous garantit la place que nous, on a aussi de préparer. Nous qui avons mis notre confiance pour le salut de nos âmes dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on parle des derniers temps ici, là, il dit dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils, les derniers temps là, sont l'attente de la promesse du retour du Seigneur Jésus. Parce que quand le Seigneur Jésus est parti pour aller au ciel, avant de monter au ciel, il est apparu à ses disciples, puis à un moment à plus de 500 frères à la fois. Il leur est apparu, il a passé 40 jours avec eux, puis après sa résurrection, ils ont pu manger avec lui, ils ont vu, ils l'ont touché, il était vraiment ressuscité, il a passé ce temps-là avec eux. Ensuite, il est allé au ciel, mais quand il est monté au ciel, on voit dans le premier chapitre des Actes qu'ils l'ont vu monter au ciel, jusqu'à ce qu'une nuée le dérobe à leurs yeux. Mais avant, les anges, après qu'il est disparu derrière les nuées, ben, des anges ont dit, qu'avez-vous à regarder au ciel? Ce même Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Donc ça, c'est l'attente de l'Église. On est dans l'attente présentement que le Seigneur Jésus, à un moment donné, au signal de Dieu, au son de la trompette, les morts en Christ, premièrement, puis nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons transformés en un instant d'un clin d'œil pour aller à la rencontre, on va monter à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Donc, c'est ce temps-là qu'on parle ici. Quand on parle du dernier temps, là, on parle de la promesse du retour. On attend la promesse du retour du Seigneur Jésus. Mais, vous savez, le Seigneur Jésus, étant Dieu lui-même, il a en vue les trois divisions de l'humanité. L'humanité est divisée en trois. On a les Juifs et les non-Juifs, les païens ou les Grecs qu'on appelle, ou les nations. Donc, il y a les Juifs et les nations, mais aussi il y a l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est une autre entité. Donc, l'humanité est divisée en trois. Puis, le Seigneur, il rejoint les trois parties de l'humanité, les trois divisions de l'humanité. Donc, premièrement, on a le retour de l'Église, le Seigneur Jésus, qui vient sur la nuée, qu'on va l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont mis leur confiance en lui, qui ont été sauvés par la foi, ils font partie de cette Église-là, indépendamment des races ou des endroits ou en Christ, il n'y a pas ni juif ni grec, il n'y a pas ni homme ni femme, on est tous un en Jésus-Christ, puis on fait partie de l'Église, ceux qui ont mis leur confiance pour le salut de leurs âmes. Eh bien, ça, c'est l'Église. Puis le Seigneur revient premièrement pour son Église, pour l'enlever avant la tribulation, les 7 ans de tribulation qui vont arriver sur la terre. Mais il revient aussi pour Israël. Il revient pour Israël pour leur donner le royaume qui avait été donné aux nations pour un temps. On est encore dans le temps des nations. Un jour, le Seigneur Jésus va revenir pour son peuple d'Israël, puis il va leur donner le roi qu'ils ont attendu, leur Messie, c'est-à-dire le fils de David. Le Seigneur Jésus va venir, il va prendre le royaume des nations et il va, on l'a vu dans la statue de Daniel, il va frapper comme une pierre qui vient frapper la statue dans les pieds, puis toute la statue s'écroule, qui représente les quatre empires qui ont été le temps des nations. Et le Seigneur Jésus, lui, devient une grande montagne, puis lui, il va installer son règne de 1000 ans. Mais il vient aussi pour les nations. Puis il vient pour les nations en jugement, mais il vient aussi pour, il va avoir dans le, ce qu'on appelle le jugement des nations vivantes, au retour du Seigneur Jésus, il vient, il va séparer les brebis d'avec les boucs, puis les brebis vont entrer dans le millénium avec son peuple juif, puis les boucs vont aller dans les temps de feu. Donc il revient pour l'Église, il revient pour Israël et il revient aussi pour les nations. On voit ça dans Matthieu 24 aussi. Donc maintenant, la révélation est maintenant tellement plus grande par le Fils. Vous savez, on a un merveilleux privilège de vivre dans le moment qu'on vit présentement parce qu'on a le... Si on avait juste le... Imaginez-vous si on avait juste l'Ancien Testament. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, tout est là, mais pas, tout n'est pas expliqué. Il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qui nous sont expliquées, un peu comme l'Épître aux Hébreux. C'est ce qu'elle fait dans l'Épître aux Hébreux. Le Saint-Esprit nous explique le système lévitique. Il nous explique les choses de l'Ancien Testament pour nous montrer comment c'est le Seigneur Jésus. Ça pointait tout vers le Seigneur Jésus. Puis le Seigneur Jésus est tellement plus grand que ces choses-là. Donc, on voit que nous, maintenant, qui avons le Nouveau Testament, bien, c'est comme si on avait un commentaire sur l'Ancien Testament. Puis c'est beau d'avoir des commentaires. On profite des commentaires bibliques écrits par des hommes. Mais ici, on a un commentaire biblique, mais inspiré du Saint-Esprit. Donc, on est sûr que c'est, n'y a pas d'erreur dans ce commentaire-là. Puis le Nouveau Testament nous explique, nous fait comprendre l'Ancien Testament. Donc, c'est tellement grand. Mais la révélation est tellement plus grande maintenant par le Fils, par le Seigneur Jésus. Dans Jean 14, 8, 9, quand le Seigneur était avec ses disciples dans la chambre haute, imaginez-vous que ça devait être, tout être une expérience. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il les a pris, puis il les a expliqué qu'est-ce qui allait se passer. Il les a expliqué pour que lui, il allait partir, mais qu'il allait revenir pour habiter en eux. Puis, à ce moment-là, il semble que quand le Seigneur Jésus leur parlait, ben, on voit entre autres dans Philippe qui avait vraiment un désir qui grandit dans son cœur, c'était de voir le Père. Puis dans Jean 14, verset 8-9, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et vous, il était dans un état maintenant avec qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur révélait. Il était dans un état qui voulait, tout ce qu'il voulait, Philippe, c'était de connaître le Père, de voir le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Si tu nous montres le Père, on va être satisfait. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on veut, c'est vraiment connaître le Père. Donc, il leur avait donné une soif de connaître le Père. Puis le Seigneur Jésus a pu lui dire, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est ça, on voit là, dans le chapitre, dans le verset 3, chapitre 1, là, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Quand on parle du mot empreinte, c'est comme quand on a frappé quelque chose, quand on a frappé quelque chose comme une pièce de monnaie, ben, ça a pris l'empreinte. Le fait que ça a frappé, ça a fait une empreinte dessus. Ben, il dit, il est l'empreinte de sa personne et il soutient toute chose par sa parole puissante. Donc, le Seigneur Jésus, il est venu nous révéler le Père. Puis, il a pu dire à Philippe, « Gars, Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec vous, puis tu ne m'as pas vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Le Seigneur Jésus pouvait dire, « Les œuvres que je fais, c'est le Père qui les fait. Les paroles qu'il disait, c'est les paroles du Père. » Le Seigneur Jésus était vraiment la représentation fidèle, exacte de ce que le Père est. Tout ce qu'on pouvait voir dans le Seigneur Jésus, c'était le caractère du Père, parce que le Seigneur Jésus ne reflétait rien d'autre que le Père. Si on va dans Colossiens au chapitre 1 et les versets 15, dans Colossiens 1, les versets 15 à 17. Okay. Il nous dit ici, le Fils, c'est le Seigneur Jésus, est l'image du Dieu invisible. On ne peut pas voir Dieu, Dieu est esprit, on ne peut pas le voir, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, lui, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Lui a manifesté ce qu'on ne pouvait pas voir. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, on voit le Seigneur Jésus ici qui est vraiment l'image du Père. Puis quand on voit le Seigneur Jésus, eh bien, on peut voir le Père parce qu'il est un avec le Père. C'est lui qui a créé toute chose. La révélation est de tellement supérieure à cause de ce qu'il est. Vous savez, il y avait des prophètes dans l'Ancien Testament, puis c'était des hommes de Dieu qui ont, puis même des fois, il y avait Jonas qui, lui, il voulait pas obéir à Dieu, mais il était quand même un prophète de Dieu. Dieu l'a utilisé pour parler aux gens de Ninive, puis ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Mais le fait que la révélation est tellement supérieure à cause de qui le Seigneur Jésus est, de là, c'est pour ça que à cause de cette grande révélation-là, ben, il donne un avertissement sévère au chapitre 2, au verset 1. Et au chapitre 2, au verset 1, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. On a une plus grande responsabilité. Plus grande bénédiction exige une plus grande responsabilité. Mais une plus grande responsabilité. Donc, si on a eu une plus grande révélation, ben, il faut faire attention, il faut rester attaché aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Hein, il dit, achète la vérité et ne la vends pas. Donc, c'est vraiment important, les choses qu'on a reçues, la révélation qu'on a reçue à travers le Seigneur Jésus, ben, il faut s'y attacher de tout notre être. C'est quelque chose de tellement précieux qui nous a été donné. C'est comme la parabole des vignerons, hein, le Seigneur Jésus qui avait donné à ces gens-là, qui étaient des gens religieux, qui étaient supposés d'attendre leur Messie, qui étaient supposés de reconnaître leur Messie parce il a accompli toutes les choses que le Messie devait accomplir. Il a donné les signes, il a démontré qu'il était le Messie d'Israël, mais ils ne l'ont pas écouté. Puis le Seigneur Jésus leur a donné une parabole. Il leur a parlé d'une parabole des vignerons. Oui, les vignerons, c'est des gens qui avaient été à qui il y avait eu une responsabilité de s'occuper de la vigne que le maître de la vigne avait plantée, puis il l'avait affermie à des vignerons. Mais les vignerons ne reconnaissaient plus le maître de la vigne. Puis le Seigneur Jésus avait dit dans Luc 20, au verset 13, le maître de la vigne dit, parce qu'il avait envoyé il leur avait envoyé des messagers pour recevoir le profit de la vigne, puis ils les ont battus, ils les ont jetés dehors de la vigne, puis ils les ont même tués. Puis le maître de la vigne dit, que ferai-je? À cause de leur réaction, que ferai-je? Il dit, j'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. Voyez-vous? Il dit, dans ce désir de leur communiquer, bon, il dit, bon, ben, je vais leur envoyer ce que j'ai de plus précieux, mon fils bien-aimé. Je vais leur envoyer mon fils, puis sûrement qu'ils vont voir où ils devraient avoir de la révérence pour mon fils. Il y aurait du respect pour mon fils, puis ils vont l'écouter. Lui, ce n'est pas un serviteur, c'est le fils lui-même qui est venu de la part du Père, puis ils auraient dû l'écouter. Mais ils l'ont pas écouté. On sait qu'ils l'ont mis en dehors de la vigne, puis ils l'ont fait mourir. C'est ce qui est arrivé avec le Seigneur Jésus. Il est venu leur donner une grande révélation, mais ils n'ont pas reçu sa révélation. Ils n'ont pas reçu le message. Il est un plus grand prophète que tous les autres prophètes. Puis même, ils ont dit, hein, quand ils ont parlé, ils ont dit, Moïse, puis nous autres, on est des enfants d'Abraham, on a Abraham pour père. Puis Moïse nous a dit, puis ils référaient à Moïse quand le Seigneur Jésus leur parlait. Mais le Seigneur Jésus, il pouvait leur dire, même avant qu'Abraham fût, je suis. Puis aussi, il y avait un plus grand que Moïse, il y avait un plus grand que Salomon. Le Seigneur Jésus qui était là, il était plus grand que tous ces gens-là qui pointaient vers lui, mais ils n'ont pas voulu écouter, comme ils n'ont pas voulu écouter non plus le Seigneur Jésus. Mais quand on pense à sa grandeur, le fait qu'il veut une relation avec nous, là, ça devient encore plus précieux. Vous savez, même le Seigneur Jésus, dans son service envers nous, là, quand il a lavé les pieds de ses disciples, là, c'était quelque chose. Vous savez, si un serviteur, quelqu'un qui vient nous servir, ben, c'est normal, c'est un serviteur. Mais si quelqu'un qui est élevé en dignité vient nous servir, imaginez-vous si le premier ministre venait nous servir, là, ça serait quelque chose qui vienne chez nous pour me laver les pieds ou me faire quelque chose. Ça serait, le service est beaucoup plus grand que si c'est quelqu'un qui a de peu d'importance. Donc, ça démontre vraiment le fait que lui, il est si grand, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. C'est pour ça que Pierre s'offusquait du fait que le Seigneur Jésus lui lave les pieds. Puis il dit, non, non, jamais, Seigneur, toi, tu ne me laveras pas les pieds. Puis le Seigneur Jésus a dit, si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. Ben, il dit, baigne-moi au complet. Puis là, le Seigneur lui explique, ben non, c'est celui qui a été lavé n'a besoin que de se laver les pieds. C'est dans la communion avec lui, c'est la purification, la sanctification qu'on a besoin à chaque jour pour communier avec lui. Mais quand on pense à sa grandeur, ça devient tellement précieux. Si Dieu, après, t'sais, il y a des grands hommes de Dieu qui ont parlé de la part de Dieu autrefois, puis à plusieurs reprises, puis de plusieurs manières. Mais quand c'est le Seigneur Jésus lui-même, Dieu manifesté dans la chair, le Fils bien-aimé de Dieu qui nous vient de la part du Père pour nous apporter un message, ben combien son message doit être important. Combien il faut vraiment porter attention. Puis il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux le message de la parole de Dieu. Puis ils pensent avoir des meilleures idées, mais il faut rester attaché au message qu'on a reçu. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. C'est important. Donc, ce qui fait l'intérêt du ciel pour nous, c'est que lui, il en est le lien pour nous. C'est ça qui fait que le ciel est précieux pour nous. Parce que le Seigneur Jésus, comme il est dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, c'est lui qui était homme et Dieu à la fois. Et lui, il est notre lien avec le ciel. Vous savez, dans toutes les religions dans le monde, on n'a pas le lien avec le ciel. Quand on a été dans la religion, on n'avait pas le contact avec Dieu. Parce que ce n'est pas la religion qui établit un contact avec Dieu. Puis moi, je me souviens, quand j'ai grandi dans une religion, mon père me disait, ben, vous n'étiez pas sérieux. Oui, on était sérieux. Mais on était désappointés parce que jamais on pouvait rentrer en contact avec Dieu. Il n'y avait pas ce contact-là. Mais à travers le Fils, à travers le Seigneur Jésus, là, on entre en contact avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qu'on pensait si loin dans le ciel, si distant, il est venu jusqu'à nous pour nous amener à lui. Ça, c'est vraiment merveilleux. Mais c'est quoi qui arrive si lui, il est notre lien? Comment qu'il est notre lien avec le ciel? Ben, il a fallu qu'avant de retourner au ciel, a fallu qu'il fasse la purification de nos péchés. Oui, le Seigneur Jésus était un grand prophète. Oui, il était un grand enseignant. Il était un grand guérisseur. Il a fait des choses extraordinaires. Il a nourri les foules. Il a eu de la compassion pour les foules. Il a enseigné comme même au point que ses ennemis, les huissiers, pouvaient dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a enseigné les foules. Les gens restaient attachés à sa parole pendant des jours. Hein, pendant des jours qu'il était avec lui, puis il n'avait même pas été mangé. Il était attaché à ses paroles. Puis le Seigneur Jésus, on dit, on ne les enverra pas. Comme ça, on va les faire manger. Puis le Seigneur Jésus, il a multiplié les pains pour les faire manger. Mais c'est quelque chose, vous savez, Peut-être que vous êtes capable de m'endurer pendant presque 1 heure, là, mais qu'avec le Seigneur Jésus, les gens restaient des journées de temps, là, sans retourner chez eux, sans aller manger. Ils ne pouvaient plus laisser ses paroles. C'était vraiment un grand message. Puis il nous disait qu'il parlait, lui, pas comme les scribes et les pharisiens, mais il parlait avec autorité. Oui, parce qu'il parlait de sa parole. C'était lui qui était vraiment le message de Dieu pour nous faire comprendre ce que Dieu nous a donné dans sa parole. Mais avant de retourner au ciel, il était grand dans toutes ces manières-là. Mais il fallait, comme il disait à ses disciples, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? C'était si le Seigneur Jésus était parti sans avoir fait la purification des péchés, puis on n'aurait jamais eu notre connexion avec le ciel. On n'aurait jamais pu dire, comme on dit là, on est tellement certain d'être au ciel que c'est comme si on y était déjà. Parce qu'il fallait que lui fasse, qu'il soit le sacrifice. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis, comme il dit ici, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voyez-vous, c'est un peu comme le sabbat ici, là. Quand on est assis, il s'est assis, ça veut dire que son travail est terminé. Le sabbat, c'était comme ça. Hein? Après que Dieu a créé en 6 jours, le septième jour, il s'est reposé. Pas parce qu'il était fatigué. Il s'est reposé parce que le travail était accompli, puis tout était parfait avant que le péché entre dans le monde. Mais c'est la même chose du Seigneur Jésus quand il a fait la purification des péchés, avant de partir, avant de rendre l'âme, il a dit: tout est accompli. Donc, c'est un travail tout accompli pour nous. On le reçoit, nous, comme un présent, comme un cadeau. On le reçoit par la foi, mais tout est accompli. Puis, on a notre lien avec le ciel. Il a fait la purification des péchés. Il est assis, un travail terminé. Il est retourné au ciel, mais il est retourné au ciel en tant qu'homme. Oui, il est encore Dieu, mais il est maintenant homme dans le ciel, un homme glorifié, un homme parfait dans le ciel. Puis, c'est vraiment, ça représente ce que nous, on va être aussi dans la résurrection pour être avec lui dans le ciel. Ça, c'est la garantie que nous aussi, on a notre place, étant maintenant purifiés de nos péchés, on a notre place dans le ciel, puis on va être glorifiés à la résurrection. On va avoir un corps qui va être éternel, un corps qui n'aura pas la mort, un corps qui va être vivant, qui va être dans la vie de résurrection du Seigneur Jésus, ça va être notre portion. Donc, combien est précieuse cette méditation-là pour nous? Quand on s'arrête à réfléchir sur ces choses-là, c'est tellement grand. C'est tellement grand au point que c'est assez pour nous faire perdre de vue toutes les tribulations d'ici-bas. Ça veut dire que tous les chrétiens qui sont sauvés par la grâce de Dieu, on peut passer à travers des situations terribles. Pourquoi? Parce à cause de notre espérance, à cause de l'assurance de ce qu'on a dans le ciel. Parce qu'on sait que les choses qu'on souffre présentement, c'est juste pour un peu de temps. Puis ensuite, on va être dans la gloire pour l'éternité. Ça fait que ça ne nous dérange pas. Vous savez, nous autres, on souffre peut-être pas tant que ça physiquement, mais il y a des gens qui ont passé des années et des années en prison, séparés de leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient chrétiens. La seule chose qu'on pouvait leur reprocher, c'est d'avoir été des chrétiens. Ils ont pu être jetés aux bêtes sauvages dans les arènes à Rome. Pourquoi? Parce qu'ils étaient chrétiens. Mais toutes ces choses-là, puis Paul qui nous décrit toutes ces souffrances, il a été naufragé, il a été battu de verge, il a été lapidé, il a été laissé comme mort, il a été mis en prison, mais toutes ces choses-là, il pouvait les subir. Pourquoi? Parce qu'il avait une espérance merveilleuse qui, maintenant, Paul est dans la gloire. Puis, un jour, il va avoir son corps aussi dans la gloire, puis nous aussi. Donc, c'est tellement précieux, ces choses-là, là, que ça nous fait perdre de vue toutes les tribulations, les choses qu'on doit souffrir ici-bas. Puis, ça nous donne de persévérer. C'est ce qui nous donne de persévérer, de ne pas se relâcher. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers la gloire. Puis le Seigneur Jésus avait dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis ça, c'est un chemin qui nous a inauguré. puis nous, on s'en va vers la gloire. Ça fait que peu importe ce qui va nous arriver, on sait qu'on s'en va vers la gloire. On va aller dans Jean 16, au verset 20. Dans Jean 16, au verset 20 et 22, Seigneur Jésus leur parlait, il leur expliquait ces choses-là. Puis, pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas grave, on a une assurance merveilleuse qui nous donne de persévérer au-delà de toutes ces choses-là. Dans Jean 16, au verset 20, il dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. On a besoin de connaître ces choses-là parce que si on n'est pas imprégné de ces choses-là, ben qu'est-ce qu'on va faire? On va se décourager. On va se décourager dans les tribulations, mais on continue, on persévère. Parce que le Seigneur nous a donné ce lien-là, on a cette assurance-là, puis c'est pas comme dans les religions. Les religions, tu fais tout ça, puis tu sais pas si tu vas arriver au but. Mais nous, on sait qu'on va arriver au but, c'est pour ça qu'on veut faire les choses qu'il nous a demandé de faire. Mais le Fils, là, est plus grand que les prophètes, parce que les prophètes transmettaient la parole de Dieu. Quand les prophètes, ils disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Donc, ils parlaient de la part de Dieu. Mais lui, c'est sa parole. Regardez dans le verset 3, il dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est puissante. Puis si on va dans le chapitre 6 et le verset 1, on voit encore là, il dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, donc c'est la parole de Christ. Christ, c'est la parole de Dieu. Il dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc, c'est la parole de Christ. C'est sa parole. Il parle comme étant sa parole. C'est pour ça qu'il pouvait dire qu'il parlait avec autorité. Dans Matthieu 7, 24, le Seigneur pouvait dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Donc, il parle de ces paroles qu'il prononçait. Et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ici, il dit que sa parole, il parle de sa parole. Personne de nous autres peut parler comme ça. Il n'y a pas un homme, même les grands prophètes, ils ne pouvaient pas parler comme ça. Ils ne pouvaient pas dire ma parole. C'était la parole de l'Éternel. C'était la parole du Seigneur. Nous, on peut parler de la parole du Seigneur. Mais on peut, c'est un peu comme les scribes et les pharisiens, on ne peut pas dire c'est ma parole, c'est la parole du Seigneur. Mais lui pouvait dire c'est ma parole. Lui pouvait parler comme ayant autorité. Dans les versets 28-29 de Matthieu 7, il dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc c'est ça qui est vraiment grand, là. C'est le fait que c'est sa parole. Quand lui parlait, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible qu'on a entre les mains, c'est la parole écrite. Mais lui, étant ici sur la terre, dans une forme humaine, il était la parole de Dieu. Et il était, et puis même, il a toujours été la parole de Dieu parce que c'est lui qui a créé toute chose. On voit ça dans Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, c'est lui qui est la parole de Dieu manifestée dans la chair. C'est pour ça qu'il est un plus grand prophète que tous les autres prophètes. Parce que c'est le Fils. J'enverrai mon Fils. Puis peut-être qu'ils auront du respect pour mon Fils. Mais j'espère que, on sait que les gens religieux n'ont pas de respect pour le Fils de Dieu. Parce que la religion détrône le Seigneur Jésus pour mettre un chef religieux, pour mettre une idéologie, pour mettre leur façon de voir, leur façon de penser au-dessus du Seigneur Jésus. Puis dans l'œcuménisme, on voit que ça ne dérange pas. Le seul qui dérange, c'est le Seigneur Jésus. parce qu'il est vraiment le plus grand prophète. Dieu, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, il a mis le summum par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, il l'empreinte de sa personne et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu. C'est tellement merveilleux le privilège qu'on a d'avoir eu ce grand prophète-là. Ce plus grand, le plus grand des prophètes, le Seigneur Jésus qui est venu nous adresser. Oui, vous savez, quand j'ai connu le Seigneur Jésus, il y a une chose qui m'a frappé. Je pensais toujours que Dieu était tellement loin, puis j'avais essayé de le rejoindre, puis je n'avais jamais réussi à le rejoindre. Mais quand j'ai vu que le Seigneur Jésus était venu ici sur la terre, j'ai dit, c'est lui qui nous a rejoints. C'est le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu tellement près de nous là, qu'on a pu lui cracher au visage. On a pu lui arracher la barbe, on a pu le frapper, on a pu le crucifier. Mais pendant tout ce temps-là, il faisait la volonté du Père. Pourquoi? C'était pour faire la purification de nos péchés, puis ensuite de monter dans la gloire. C'est notre salut. C'est ça, c'est dans les derniers temps. Dieu nous a parlé d'une façon tellement grande. Il faut retenir ferme les choses qu'on a connues à travers le Seigneur Jésus. Je m'arrête là pour vous donner l'opportunité de pouvoir, attendez un petit peu, je vais vous donner la possibilité de reprendre votre micro, puis qu'on puisse, attendez un petit peu, en tant qu'ils ont changé les choses ici. Hein. Participants, OK, ici. OK, maintenant vous avez la possibilité de prendre votre micro. Si vous avez des questions, on va passer un temps à aller jusqu'à 8 heures pour répondre à ces choses. Si jamais vous avez de la difficulté à prendre votre micro, faites-moi signe, parce que ça arrive. Si vous ne le prenez pas, des fois, il faut que je vous donne l'autorisation de le faire. Fait que je vous laisse la parole.
J'aimerais dire juste un petit mot, Gérald. Nous avons trois nouvelles personnes ce soir à l'écran. J'aurais aimé arriver plus de bonne heure, mais je n'ai pas réussi. Il y a quoi qui ne fonctionnait pas. Alors, il y a Nadia, ma fille. Ensuite, j'ai un cousin de Mégantic, Gervais. Gervais Rouer. Bonsoir, Gervais. Mais il les aime quand même, hein, parce que la Bible nous dit qu'il aime Israël d'un amour éternel.
Exactement. Il a fait des promesses, puis il va les accomplir. Mais en dépit des gens qui que Dieu en a fini avec Israël, si Dieu en avait fini avec Israël, on n'aurait pas d'assurance.
Ouais.
Il aurait fait des promesses éternelles. Puis, il ne tenait pas ses promesses. Puis, c'est quelque chose du fait qu'il les a préservées pendant 2000 ans maintenant. C'est vraiment quelque chose. Là. Quel peuple peut demeurer comme ça et rester dans son identité après avoir été dispersé à travers les nations pendant. Les Juifs sont encore des Juifs. Et si les Juifs sont encore des Juifs, c'est la preuve que Dieu va accomplir ses promesses. Je pense qu'on est arrivé à notre temps, c'est qu'on va peut-être terminer avec un mot de prière pour ceux qui doivent partir. Puis, nous qui venons jaser, on peut jaser, mais ceux qui doivent partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie parce que tu as fait des choses grandes, Seigneur. Dans ces derniers temps, tu nous as parlé par ton Fils lui-même qui est venu ici sur la terre. Dieu manifesté dans la chair. On te remercie, notre Dieu, qu'il a été comme un agneau muet devant ceux qui le tombent, parce que sa nourriture était de faire ta volonté. Et il l'a accompli parfaitement, au point qu'il a pu dire, avant de rendre l'âme, il a pu dire, tout est accompli. Merci Seigneur pour un salut si bien accompli. La purification de nos péchés qui s'est faite par son sang précieux qui a été versé sur la croix du Calvaire. Seigneur, merci. Donne-nous de porter attention au message qu'on donne par lui, afin de rester ferme dans tes voies, Seigneur. Merci encore une fois. Merci pour ceux qui se sont ajoutés ce soir. Merci pour ceux qui fidèlement continuent à chaque semaine. C'est un temps merveilleux, Seigneur, de se retrouver ensemble pour regarder à ta parole, pour chercher à voir dans ta parole ton Fils bien-aimé, Seigneur Jésus. Puis, Seigneur, oui, on peut dire, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Merci encore une fois, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.